Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma comme chaque mercredi. Et aujourd'hui, c'est un spécial Cannes 2014, parce que vous savez que l'équipe de Brume a couvert pour vous chaque jour du festival. Voilà tout ce qui s'est passé un petit peu en termes de sorties de films, d'interviews, de conférences de presse, enfin l'actualité de Cannes. Et bien sûr, on va revenir dans cette émission sur le palmarès de ce 67e Festival international du film de Cannes. Oui. Alors bonsoir messieurs quand même.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça me fait plaisir de vous retrouver, je me sentais seul là-bas moi.
Ouais, c'est vrai qu'on t'a laissé un petit peu seul pour terminer cette opération Cannes. Première question, est-ce que vous avez passé un bon festival messieurs quand
oui,
même?
Oui, c'était court mais intense pour moi.
T'as vu combien de films, Hakim, en 4 jours?
J'ai vu 12 films en 4 jours.
Ah, pas mal.
Non, c'était un bon ratio.
Ouais, c'est un bon ratio. C'était un bon festival dans l'ensemble. Pas extraordinaire, j'ai connu mieux, mais c'était un bon festival dans son ensemble.
Ouais, avec une sélection finalement qui était pas mal, quoi.
Après, qui a mis du temps à démarrer. Alors moi, c'est au moment où je suis parti que les bonnes choses commençaient.
Et en même temps, il y a pas mal de films, comme l'ont répété certains, qui ont gagné et qui étaient plutôt au début. On parlait de Party Girl,
oui,
même
Turner,
La Palme d'Or, de Monsieur oui. Turner, etc. C'est quand même tous des films qui
c'est
étaient
vrai.
Au début. Mais bon, on va prendre un peu point par point. Alors d'abord, la Palme d'Or, alors quand même que vous avez vu tous les deux.
Qui n'est pas. Alors moi, je peux le dire, hein, je l'ai vu en entier.
Objectivement, ouais. Mais n'empêche, mon calcul marchait puisque... chaque année, je rate la Palme d'Or, et là, j'ai raté une partie de la Palme d'Or. J'étais avec Hakim, le film dure 3h16, il me semble, et au bout de 2h et quelques, j'en pouvais plus, j'avais super soif. J'avais rien bu là, donc je suis parti, et du coup, j'ai pu avoir des informations sur Welcome to New York. Donc, je sais pas si on a pas un peu bien fait, quand même.
Mais alors, ça n'a pas été une surprise, hein. Donc, Selian, ce réalisateur turc qui avait déjà gagné en 2003 le Grand Prix du jury pour Uzak, qui a gagné un deuxième Grand Prix en 2011 pour It's une fois en Anatolie, et qui a également gagné un prix de la mise en scène en 2008 pour Les Trois Singes. Il arrivait un peu en terrain connu, un peu comme les Dardenne. Il a finalement un CV, un parcours identique aux Dardenne. À chaque fois qu'il vient au Festival de Cannes, il repart avec un prix. Et c'est vrai que déjà le film, de par sa durée de 3h16, de par son sujet, de par sa mise en scène, de par son cadre, de par les acteurs qui sont tous géniaux. Effectivement, c'était un prétendant à la Palme d'Or. Après, comme je l'ai dit lors de mes critiques, ce n'est pas, je ne me suis pas ennuyé. Je reconnais que c'est très bien filmé, que c'est très bien interprété, qu'il y a un très bon rythme, que ce soit dans le débit des voix ou même le montage, même s'il y a beaucoup de chants contre chants qui m'énervent, il y a quand même un métrage qui est maîtrisé. Malgré cela, ce n'est pas ce qui me botte le plus, même si ce prix-là me pousse à m'intéresser un peu à ses précédents travaux, notamment avec Il faut en Anatolie, qui a eu le Grand Prix et qui comporte un pitch qui me dit vachement. Donc voilà, il a reçu la Palme d'Or des mains de Quentin Tarantino, du Matterman, et c'est Jeanne Campion qui a officialisé la chose. Ce n'est pas une surprise pour moi.
Mais on ne sait pas, par contre, si la Palme d'Or était décernée à l'unanimité ou non. Nicolas Zuninghoffen, dans la dernière conférence de presse des membres du jury, a déclaré qu'il ne dira rien de toute façon. Donc, est-ce que c'est comme la vie d'Adèle? Est-ce que ça a été un palmarès plus déchiré qu'à l'époque du ruban blanc, par exemple? On ne saura pas, du moins pour le moment.
On le saura avec le temps, mais pas tout de suite. Voilà.
Après, on avait quand même l'impression, moi qui ai vécu la première partie du festival avec vous à Cannes, et la deuxième partie un peu plus en retrait, mais qui est quand même un petit peu suivie, les différents membres du jury et tout ça, on sentait quand même qu'entre eux, ça avait l'air quand même assez calme. On sentait que c'est, ouais. Y a une, en tout cas à ce niveau-là, c'était moins déchiré que d'autres fois. Alors, savoir sur la délibération, effectivement, on ne sait pas encore, mais en tout cas, sur l'ambiance, sur leur relation, ça avait l'air quand même assez clean, quoi.
D'autant plus que c'est des gens qui sont vraiment issus de différents horizons, quoi. Voilà, Jeanne Campion, Nicolas Zuninghoffen, qui est là pour Massacre à la tronçonneuse et qui dit qu'il faut lui foutre la Palme d'Or.
Carole Bouquet.
William Dafoe. Donc, c'est vraiment des gens un peu de tous les horizons. C'était un jury très, très équilibré, j'ai trouvé, entre les hommes, les femmes et les différents horizons.
4-5 femmes dans le jury.
Hein. Ouais, parité cette année apparemment. Et non, en tout cas, parmi les critiques et les cinéphiles présents à Cannes, Wintersleep revenait beaucoup dans les conversations.
Si dans les derniers jours, le palmomètre indiquait à ex aequo les Frères Dardenne avec Deux
Dolan.
Jours et Nuit et Mommy, le film de Xavier Dolan.
Et on pensait aussi à Tombouctou, peut-être en embuscade, et c'était à peu près les 4 qui revenaient.
Qui n'a rien eu, voilà. Tombouctou, Deux Jours, Une Nuit... font
deux très grands films personnellement
qui n'ont rien eu. C'était un peu bizarre et c'est on peut le noter, hein, c'est la première fois que les frères Dardenne viennent à Cannes et repartent bredouille.
Ouais. Après, c'est vrai que ça a eu l'air comme ça de récompense assez finalement juste, correct, mais sans prendre de risque. Quoi. C'est-à-dire que le jury a fait quelque chose avec des films qui étaient tout à fait corrects et bons. Mais en même temps, il n'a pas comme ça, il n'y a pas eu une certaine prise de position vraiment, on va dire.
Oui, comme l'an passé avec Lady Adèle,
par voilà, exemple. Ou qui aurait été le cas si ça avait été Timbuktu ou même Mommy, quoi, où il y aurait eu quelque chose comme ça.
Mais apparemment, les membres du jury ont adoré la prestation de la jeune actrice turque. J'ai son nom, c'est Melissa Sözen. Sözen, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et ils voulaient lui remettre le prix d'interprétation féminine à la place de Julianne Moore. Mais comme voilà, la jurisprudence Barton Fink s'y opposait, ils ne pouvaient pas remettre plusieurs prix à un même film. Donc, ils ont décidé de remettre la Palme d'Or en définitive à Winter Sleep.
C'est bien ce que tu... Il faut rappeler aux auditeurs... L'affaire Barton Fink, hein, c'est 93, je crois.
91, je crois.
91, donc à l'époque, Roman Polanski est président du jury. Hein, il va voir Jacob pour lui dire « Bon, on est à la moitié du festival, pour l'instant, il n'y a que de la merde. » Et ça va se sentir au palmarès, car il va donner le prix, la Palme d'Or, le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine au film Barton Fink, donc au frère Cohen et à John Turturro. Une chose que va répéter un petit peu, il va se répéter en 2001, alors je ne me rappelle plus qui était là en 2001, mais
le pianiste,
donc deux prix d'interprétation. Je crois qu'il y a un prix pour un que je suis pas sûr, mais en 2003, Patrick Chéreau va encore faire la même chose avec la pianiste, avec le pianiste, pardon. Palme d'Or, prix de la mise en scène. Donc voilà. Maintenant, effectivement, par souci de... Et la même année, Chéreau avait donné prix de la mise en scène, prix du scénario, prix d'interprétation féminine pour Marie-Josée Croze et prix du scénario à Denis Arcand pour Les Anges... Les
Invasions barbares.
Donc voilà, on avait finalement un palmarès où il y avait deux films qui dominaient le tout. Et là, maintenant, ils essayent de mettre un petit peu d'égalité. Et là, effectivement, on a un palmarès qui est assez, pas équitable, mais je dirais
équilibré.
Équilibré.
Mais en tout cas, voilà, moi, dès le début, j'avais dit que ce ne serait pas ni un film français ni un film américain. Il y a eu beaucoup de ça. Hein, et je m'attendais vraiment à un palmarès entre guillemets exotique. Voilà, pourquoi pas un film mauritanien, pourquoi pas un film japonais. Voilà, et c'est du coup un film turc qui est récompensé. Donc c'est aussi un peu de la politique hein, quand même.
Oui, en plus, c'est les 100 ans du cinéma turc,
voilà.
2014. Ouais. Puis bon, il y a eu des incidents graves récemment en Turquie.
Exactement, en plus.
Donc, et le Grand Prix, alors, c'est un film qui passait quand j'étais à Cannes.
Même après.
Et en fait, on ne l'a pas vu, car l'activité cannoise nous a orienté plus vers le nouveau film de Ferrara qu'on évoquera un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est un film italien réalisé par une jeune actrice. Une jeune actrice s'appelle Alice
Rohrwacher,
pardon, qui a 32 ans et son film, c'est le Meraghi. Meraviglie. Un film italien avec entre
autres. Merveilles.
Les Merveilles en italien avec entre autres Monica Bellucci. Alors un film qu'on n'a pas vu car il est vrai que le pitch ne nous attirait pas tant que ça.
Non, et puis pris aussi par les autres séances du coup.
Oui,
on a décidé de faire Welcome to New York. On n'a pas pu rattraper après le film.
Et apparemment, par contre, Nicolas Winding Refn a été par contre clair sur le film, hein, contrairement au choix de la Palme d'Or. C'est qu'il a dit en conférence de presse que face à ce film-là, il a eu l'impression à la fin du film de se retrouver dans un avion et de partir progressivement en attitude. C'est ce que le film lui a, l'émotion que lui a éprouvé le film à la fin.
Et c'est quoi alors,
et qu'il
du coup,
complètement
un petit
chanté.
Peu le nous faire le scénario.
C'est un peu comme le film Reality qui était à Cannes. Je crois que tu l'avais vu à l'époque. Peut-être
en 2012, oui. Grand Prix également.
Ouais, c'est un film qui revient sur la campagne et un jeu de télé-réalité, un jeu de télévision va venir en fait voir des paysans italiens. On pourrait dire. Je crois qu'on peut le simplifier comme ça, le résumer comme ça. Et moi, j'ai mon collègue Benoît Thévenin, que je salue s'il m'écoute, qui travaille à Lanterna Magica, qui a vu le film, qui sur le coup, lui, n'a pas ressenti une grande émotion, mais qui quand même se travaillait au fur et à mesure du festival. Il l'avait quand même en tête et lui-même disait que c'était un film qui pouvait être palmé, pourquoi pas.
Oui, c'était pas un coup dans l'eau non plus, quoi.
Voilà, ouais. Il restait quand même pas mal dans la tête des critiques.
D'accord. Alors, on va parler maintenant des deux films ex aequo, un peu une paire assez invraisemblable, finalement.
Bah entre, En plus, c'est des films que je n'ai pas vus, même si aujourd'hui sort Adieu au langage. Hein, donc, Adieu au langage de Jean-Luc Godard.
Qui a fait 130 entrées premier jour à Paris, quand même.
130 ?
Ouais, 130 seulement en France, puisqu'il y a deux salles à Paris. 130 et 2300 à Cannes avec 500 refoulés. pour la séance.
D'accord, c'est dire. Donc du coup, oui, prix du jury ex aequo, Xavier Dolan, 25 ans avec Mommy, qu'on annonçait beaucoup plus haut, avec peut-être une palme d'or, c'est ce que les critiques soulevaient, comme quoi des fois, les goûts des critiques et des jurys est complètement opposé. Donc prix du jury ex aequo avec Dolan, 25 ans, et Jean-Luc Godard, 83 ans, avec Adieu au langage, que je n'ai pas vu, même si le film sort aujourd'hui, je le verrai un peu plus tard. Raphaël, tu as vu ces deux films.
Alors oui,
préciser
oui.
Préciser que Godard n'est pas venu, comme il l'avait dit. Hein. Bon, moi, Godard, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il a apporté beaucoup au cinéma mondial, surtout durant les 10 premières années de sa carrière de metteur en scène, dans lequel il a réalisé 15 films. Hein. C'est vrai que dans les 60... Godard était un réalisateur très prolifique qui produisait beaucoup de
le cinéma, il faut quand même dire.
Il a réinventé quand même beaucoup de choses.
Je veux dire, à l'époque, il tournait 2-3 films par an à un moment donné. Donc, c'était un gars très prolifique qui tournait.
Puis qui est quand même cité en exemple par quasiment la moitié des réalisateurs de cette planète.
Comme Tarantino, qui est un faquin.
Mais très clairement, il a dit le départ, il le dit depuis 4 ans, ça n'intéresse plus d'aller dans les festivals, ça n'intéresse plus d'aller au Festival de Cannes, ça n'intéresse plus de jouer ce petit jeu, voilà, on va à la projection.
De toute façon, Godard, il a quand même mis une grosse rupture avec le monde du cinéma dès l'année 69-70, les années... post-68.
Oui, mais il revient quand même à Cannes après. Il revient en 89 avec Nouvelle Vague, oui, avec Alain Delon.
Il a quand même été loin de ces affaires-là. Quoi. Ça fait un moment que... Enfin, moi, je veux dire, qui connaît vraiment très bien l'œuvre de Godard et un petit peu le personnage, ça ne m'étonne pas du tout qu'il fasse ce cinoche de « je viens pas, j'en ai rien à foutre de vos trucs, machin ».
Il fait sa star.
Mais tu vois, il est star. Et puis, il a toujours été comme ça. Enfin, depuis, en tout cas, un certain nombre d'années. Quoi.
Mais à l'opposé d'un Terrence Malick qui, lui, volontairement, ne veut pas venir...
Depuis le début de sa carrière.
Non, le pire, c'est que Terrence Malick vient à Cannes en 2011. Il se planque dans un hôtel en attendant qu'on lui remette la palme d'or qu'il espère et qu'il a exigé. On peut dire ça comme ça. Parce que dès que le film est arrivé, tout le monde criait déjà au chef-d'œuvre et à la palme d'or.
Même avant le festival, d'ailleurs.
Il ne vient pas en conférence de presse, il ne vient pas défendre son film parce qu'il a peur de la presse. On peut, certes, mais Kubrick ne détestait ça, il n'aimait pas les gens, il n'aimait pas la presse, mais il ne montrait pas ses films. Et lui, par contre, Terrence Malick, lui, s'était planqué dans une chambre d'hôtel et avait accueilli toute l'équipe le soir après la remise du prix.
Mais Godard, c'est complètement différent.
Lui, il fait ses films et il les une fois qu'ils sont terminés, il les montre et les gens jugent. Et je pense très clairement que lui, il s'en fout complètement de Cannes. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait voulu envoyer.
Il n'a pas donné un prix,
effectivement. Et ce n'est pas lui qui a envoyé le film à Cannes. Hein,
c'est Maraval.
Non, mais si vous relisez la lettre de rupture de Godard à Truffaut après le film La Nuit américaine,
qui est un très
grand film et qui est un film quand même sur le monde du cinéma, etc. Et je veux dire, tout est dit là-dedans. C'est-à-dire qu'il rejette ça. Cette lettre-là, elle aurait pu s'adresser au Festival de Cannes. C'est qu'à un moment il est dans un truc complètement ailleurs, quoi. En tout cas, par rapport à ce monde-là.
Mais mine de rien, il donne beaucoup d'interviews. Il reçoit des gens chez lui en Suisse. Il va à Paris, dans son appartement. Il
paraît qu'il est quand même très spécial. J'ai rencontré un critique là-bas dans les queues parce qu'on fait beaucoup de queues. Comme quoi, le mec, il est jusqu'à Los Angeles. Au dernier moment, il a dit non, j'ai pas envie de la faire, quoi. Et du coup, ils sont rentrés bredouille, sans interview, sans rien. Et c'était il y a 3-4 ans.
D'accord. Bon, ce film, alors, du coup, toi, Raphaël, qui l'a vu ?
Ben, force est de constater, moi, du coup, j'aime pas Godard. Hein. Moi, je trouve que c'est. Voilà, il joue beaucoup de son aspect révolutionnaire d'il y a 40 ans, 50 ans. Et je trouve qu'il reste beaucoup sur ce statut, idem pour les critiques qui ne voient que ça, et je trouve qu'il aura quand même filé de manière assez magistrale la soupe. Il aura filé vraiment ce qu'ils attendaient, les critiques, qui étaient vraiment en ébullition. C'était la cohue, il y a eu 500 refoules à la séance à 16h, hein.
Parce qu'il y a une projection, c'est bien ça,
une seule projection,
c'est comme pour Winter Sleep, projection l'après-midi.
C'était vraiment le bordel absolu. Moi, je suis quand même allé bien à l'avance parce que je savais que c'était un gros truc et qu'il fallait vraiment le chroniquer, donc j'étais bien à l'avance. Jimmy Franky, notre technicien, nous a rejoint après, on a pu voir le film. Et voilà, Godard fait un film de briques et de brocs composé de phrases toutes faites, de philosophie, de poésie.
Ça marque de fabrique depuis 20 ans.
Sur le capitalisme, sur Adolf Hitler, etc. De séquences, mais hallucinantes, où on voit un homme en train de déféquer aux toilettes, en train de parler avec sa femme en 3D. T'as des phrases hallucinantes où t'as la femme qui murmure « La beauté se trouve dans le caca ». Véridique, hein. Et là tu te dis mais c'est quoi ce truc. Mais il faut quand même reconnaître à Godard quand même, parce qu'il faut reconnaître son talent. La 3D est extraordinaire. Moi, je suis un grand défenseur de la 3D et Godard a tout compris de la 3D. Il fait une 3D un peu inverse à James Cameron, une 3D qui vient vers toi et pas une 3D en profondeur. et il arrive très très bien à créer des plans, certes voilà, anodins, voilà, c'est un couple qui chamaille dans une pièce, un bateau qui arrive, avec des amorces, c'est très bien pensé, du coup ça fait vraiment un décalage incroyable avec la réalité, et il y a des effets, il y a une séquence où même moi j'ai applaudi au milieu du film, où on voit en fait une surimpression 3D, ce que j'avais jamais vu encore, et tu vois deux plans, tu fermes l'œil gauche, tu vois le plan à droite, tu fermes l'œil droit, tu vois le plan à gauche, c'est un homme et une femme, la femme part à gauche, l'homme part à droite, et quand ils se réunissent, tu as de nouveau l'effet 3D. Et là, tout le monde s'est levé et applaudit parce que l'effet est sensationnel, il faut quand même le reconnaître. Et la 3D, voilà, tient du début à la fin. Et ce qui est très drôle avec Godard, c'est que c'est un farceur, voilà, un provocateur. Le film se termine, tout le monde se lève, tout le monde s'en va, les lumières se rallument et le film reprend. Quoi. Il y a encore des séquences après le film. Quoi. Mmh. Et là, c'est drôle quand même. Voilà,
c'est un film sur la 3D. C'est adieu au langage, donc adieu à un certain langage cinématographique. Ouais. Je rentre dans l'époque moderne avec ma vision de la 3D. Je ne sais pas si tu as vu sur Internet les photos de tournage du film.
Non, en fait, j'ai vu les acteurs là-bas.
Il tourne, alors je pense qu'il a dû tourner ses scènes avec plusieurs caméras. Il a, ça me fait bien, c'est avec des appareils photo Canon 7D. Hein. Bon, il a une caméra un peu plus grande, je ne sais pas laquelle c'est exactement. Mais justement, tu parlais de Cameron et tous ces grands metteurs en scène qui innovent avec la 3D. Bah, compare les plateaux de tournage de ces metteurs en scène avec celui de Godard. Je n'ai pas vu encore le film, tu dis que la 3D est magistrale.
Oui, comme ça, il faut le reconnaître.
Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de grosses machines, pas besoin de grosses technologies pour penser intelligemment à un langage cinématographique.
Mais après, c'est au service, je dirais, d'une escroquerie. Ça veut dire qu'il sert vraiment ce que les critiques qui sont vraiment au pied de Godard, voilà, tous les critiques du monde entier, la cohue qu'il y avait.
Il y a un rapport amour-haine, quoi, parce qu'il y a tout le temps qui l'ont détesté.
C'était un peu comme le Gosling, il se faisait applaudir un peu avant. Quoi, tu vois.
Mais voilà,
c'était un peu la star. Quoi.
Jeanne Campion, lors de conférence de presse, a dit « Nous avons récompensé cet auteur-là parce qu'on a assisté à un vrai poème virtuel, un vrai poème esthétique. » Qui sont les mêmes termes que Thierry Frémaux lorsqu'il a justifié la sélection du film.
Et par contre, c'était aussi fait d'avance. On en parlait tous les deux ensemble avant la sélection. Godard, voilà, c'était fait d'avance. Il aurait forcément appris de
mais
son
non,
statut.
Mais non, c'est pas. Non, bah non.
Après, voilà, pour conclure là-dessus, on va écouter un morceau de musique et on se retrouvera pour parler de Momie et tous les autres films et tout. Ouais. Mais sur Godard, il y a quand même quelque chose d'assez particulier avec ce personnage. C'est que c'est tellement une légende vivante. Il y a tellement mystique autour de lui que ça brouille aussi toutes les pistes, quoi. À un moment donné, il y a tellement de gens qui ont pris de lui certaines choses. C'est un des derniers monuments aussi qui reste vivant, etc. Que du coup, il y a un truc qui est faussé et qui est compliqué, je trouve, dans le rapport à Godard et à ce qu'il crée.
Et c'est normal, d'ailleurs, c'est normal.
Allez, on écoute un peu de musique et on se retrouve pour parler aussi de tous les autres films qui ont été récompensés.
Small moments where I risk myself losing control. With a fire, it's
deuxième partie de cet entretien Confluence Cinéma spécial Cannes. Alors, dans les autres grands films récompensés, en même temps que Godard, il y a donc eu le film Mommy qui a fait sensation aussi de Xavier Dolan.
Et oui, Dolan, il a déclaré d'ailleurs qu'il avait vu que deux films de Jean-Luc Godard dans sa vie et qu'il avait détesté. Hein. Ouais, donc, comme quoi, on peut être ex-aequo avec ça.
Mais c'est étonnant parce que je pense que c'est le genre de cinéaste qu'il affectionnerait, qu'il intéresserait. D'un point de vue de la technique, d'après ce que j'ai compris, là, il avait encore innové un truc avec, avec un format 1-1. Je veux dire, ils ont, dans le genre réalisateur expérimental qui expérimente l'image, les cadrages, le langage cinématographique, je pense qu'il devrait s'entendre.
Mais pour le coup, c'est logique d'avoir mis les deux films ex aequo, puisqu'effectivement, ils innovent de nouveaux formats, de nouvelles sensations cinématographiques.
Alors, Mommy, tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, c'est dans un Canada un peu fictif, dans le futur, je crois que ça se passe en 2015 ou 2016. Le gouvernement vote une loi qui permet en fait aux parents de se débarrasser de leurs enfants en cas de troubles mentaux. Et donc ça, c'est un petit laïus qui est expliqué au début du film. Mais après, on suit le parcours d'une femme, un peu Marissa Tomei, un peu, tu vois, dans The Wrestler, un peu la fille, un peu vulgose, un peu, tu vois, 40 ans, un peu la MILF, quoi.
Ce que j'aime.
Et voilà, la MILF et tout, donc en québécois, etc., qui récupère son fils, qui est un, comment on pourrait dire, une sorte de délinquant un peu pervers.
Bipolaire.
Voilà, bipolaire, exactement, voilà, qui est à la fois agressif, à la fois gentil avec sa mère, et des fois il la traite de sale pute, et des fois il la prend dans ses bras en disant je t'aime maman, etc. Et on suit leur relation, et puis il y a une troisième personne qui va arriver, c'est la voisine, hein, qui va devenir la meilleure amie de la mère, et on va voir leur parcours à tous les trois. Et ce qui est absolument génial dans le film, hein, qui est assez long quand même, mais qui passe très très bien, hein, c'est son format, effectivement, comme tu l'as dit, hein, du 1.1. On dirait le format un peu des iPhones. Donc c'est un format très, très rectangulaire, qui est vertical, hein, contrairement à du scope qui est horizontal. Et au moment clé de l'intrigue, à des moments vraiment très particuliers de bonheur, le héros écarte le cadre, et là ça devient du scope. Et là, du coup, là, pareil, là, ça fait sensation chez les critiques. Tout le monde s'est levé et applaudi, moi le premier, parce que tu ne t'attends pas du tout une seconde à ça. Quoi.
Mais il innove ce qu'il avait déjà innové dans Tom à la ferme, à savoir un format, on va dire, traditionnel de 35 durant tout le film. Et au moment des séquences un peu agressives, tendues, où le personnage de Tom se confronte au frère de son ex-amant, l'image devient un scope. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc, bon, je n'avais pas trouvé ça très original, mais de ce que tu me dis.
Non, mais d'autant que la forme correspond parfaitement au fond, si tu veux. C'est pas un gadget. C'est-à-dire que dans les moments très tendus entre le fils et la mère, c'est vraiment un format qui enferme, qui encercle les personnages dans leur propos, dans leur vie. Et tu as des moments un peu surréalistes où la mère rêve, etc., de ce que pourra devenir son gamin. D'ailleurs, le gamin, c'est joué par Dolan dans le futur. Parce qu'il a 16 ans dans le film.
Ah, il
et
joue
dans
encore,
le futur. Ouais, mais c'est juste un caméo, tu vois. Et dans le futur, c'est Dolan. Et à ces moments précis, vraiment, ça explose. C'est le bonheur. Donc, du coup, voilà, le bonheur explose le format et prend toute la place de l'écran.
Mais sinon, tout le film est en 1.1.
Ouais, tout le reste. Il doit avoir peut-être 5 minutes en scope et tout le reste en 1.1. Et c'est un format, du coup, très moderne et très juste, quoi, par rapport au personnage, quoi.
Et au niveau du jeu, du coup, du scénario, un petit peu des dialogues.
On attendait la mère, pourquoi pas, pour une interprétation.
D'accord. Il y avait du haut niveau, quoi.
Ah ouais, ouais,
c'est vrai que voilà, moi j'étais plus à Cannes à ce moment-là, mais voilà, la buzz, planète cinéma a parlé que de ça, quoi.
Ouais, mais oui,
c'est quand même dingue de voir ce mec qui a réussi à mettre tous les critiques ciné à genoux, quoi.
Mais enfin,
depuis 4 ans, 5 ans.
5 ans, et puis
c'est
2009.
C'est hallucinant.
Je reviens un petit peu sur mes propos parce que j'ai commencé à regarder Les Amours Imaginaires, qui est passé sur Arte, donc je l'ai regardé un petit peu avec du retard, la première heure. Et j'ai revu un peu mes jugements, car je trouve qu'à 20 ans, faire un film avec une direction d'acteur aussi précise, aussi ingénieuse, avec des choix esthétiques dans les formats, dans les mouvements de caméra, je trouve que c'est assez ingénieux pour un gamin de 20 ans. Donc effectivement, je trouve qu'il a un talent pour certaines choses, pour le talent de la direction d'acteur.
Un vrai style.
Et un style. Par contre, pour moi, ça reste une sorte de Cristiano Ronaldo du cinéma, un type narcissique qui pète pas plus haut que son cul. Quand il faut dire « Ah mon Dieu, j'ai mon troisième film à 22 ans, je suis pas encore en compétition, c'est un scandale ». Et voilà, le type qui va chialer comme une madeleine lors de la remise du prix, lorsqu'il rentre dans la salle, tu dis que bon,
mais ça, c'est sûr que je pense que c'est un personnage assez odieux, peut-être, voilà. Et assez sûr de lui.
Enfin, mais
en tout cas,
talentueux.
Ce qu'il en dégage.
Mais
après, voilà, nous, ce qu'on lui demande, c'est de faire des bons films. À la limite, on s'en fout. De toute façon, si on regarde la planète artistique, il y a quand même les trois quarts des gens qui sont assez imbuvables. Hein.
Oui,
mais
vrai.
Ce qui compte, c'est surtout ce qu'il crée. Et c'est vrai que ce mec-là, moi, j'ai pas encore vu Mommy, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il arrive à intéresser les gens, à amener quelque chose quand même dans une époque où finalement, il n'y a pas tant de jeunes gens comme ça qui arrivent à exploser, quoi. d'un en niveau mondial.
Cas,
en plus,
je ne sais pas si vous avez vu, mais Dolan a déclaré qu'il va prendre un break.
Oui.
Mais est-ce que c'est par rapport peut-être au fait d'avoir maqué la Palme d'Or ou je ne sais pas.
Non.
Mais il va faire un break, il va retourner aux études.
Alors oui, des études de langue anglaise, je crois. Mais entre-temps, il a déjà terminé un autre scénario.
Ah,
voilà, a terminé un autre scénario, mais il fait un break d'une année pour reprendre ses études.
Dans les autres récompenses, il y a eu donc l'interprétation féminine pour Julianne Moore dans le film Maps to the Stars de Cronenberg que tu as vu aussi, toi,
la deuxième semaine. Ouais, de toute façon, moi, je l'avais dit, moi, je pensais que c'était soit Gauthier, soit Julianne Moore. Julianne Moore qui joue vraiment l'hystéro, l'actrice schizo, vulgaire, machin. Et elle le fait vraiment très bien. Alors après, bon... peut-être que d'autres actrices leur auraient mérité plus qu'elle. Après, comme on disait, voilà, la répartition des prix est très politique, très pensée, finalement très équilibrée. Mais elle le mérite. Alors que le film, vous savez ce que je pense de Cronenberg, de ses derniers films, voilà, History of Violence, Eastern Promises.
C'est quoi un petit peu alors l'histoire ?
C'est l'histoire de plusieurs personnes qui débarquent à Hollywood. Enfin, il y a une jeune femme qui est jouée par la jeune fille d'Alice au Pays des Merveilles, Mia Merzekova, enfin, je sais plus son nom. Elle débarque, elle est brûlée, elle est défigurée, elle débarque à Hollywood. Elle a un passé trouble, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et pendant ce temps, on suit le quotidien d'un jeune acteur, une sorte de bébé star, qui va faire une suite d'un film qui s'appelle Babysitter, je crois, et qui est complètement pourri par l'argent, qui est complètement égocentrique. On suit le destin d'une actrice, donc incarnée par Julianne Moore, qui rêve à tout prix de décrocher un rôle, qui n'est pas n'importe quel rôle d'ailleurs, puisque c'est le rôle de sa mère. On apprend dans le film qu'elle était violée par sa mère en plus, donc du coup, il y a vraiment quelque chose de très freudien qu'on retrouve.
Et moi, j'ai entendu justement un petit peu dans les critiques ou dans ce qu'on a pu dire du film que c'était un peu une métaphore. Il prenait un peu une famille incestueuse et c'était un peu une métaphore d'Hollywood et des liens qu'il peut y avoir entre les gens dans le cinéma, l'argent, etc.
Et jusqu'où on peut aller à cause de ça, quoi. Enfin, dans la folie, dans l'autodestruction et le sexe, etc. Mais moi, j'ai trouvé. Et pas grand monde a fait le lien, c'est assez bizarre, que le film d'Assayas est à peu près sur le même sujet et beaucoup mieux traité. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Cronenberg, on voit Pattinson, alors que dans l'Assayas, on voit son ex-copine, qui est Kristen Stewart. Et c'est des films qui se répondent beaucoup, puisque dans le Cronenberg, pardon, on voit des acteurs qui parlent entre autres de ce que ça fait d'être acteur, d'être Hollywood et compagnie. Et dans le film d'Assayas, c'est deux actrices, enfin une actrice et son assistante qui répètent une pièce et qui parlent de la même chose. Qu'est-ce que c'est que de créer, jusqu'où on peut aller pour ça. Et je trouve que le film d'Assayas est beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux traité dans sa longueur. Quoi.
Après, c'est quand même dommage que Marion Cotillard n'ait pas eu son prix cette année parce qu'elle l'a loupé l'année dernière au profil de Bérénice Bejo qui le méritait dans le passé. Et là, moi, j'ai vu le film des Frères Dardenne qui est sorti en même temps qu'il était projeté à Cannes. Petit à petit, c'est comme Dolan, je commence à apprécier un peu plus les Frères Dardenne. J'ai beaucoup aimé Deux jours et une nuit, même si leur meilleur pour moi restera l'Office.
Tu grandis, Hakim, c'est bien.
Je change.
Mais c'est bien Hidardenne, c'est bien Hidardenne.
Et je trouvais que dans ce film, Marion Cotillard était extraordinaire. Ouais. Elle joue quand même très rapidement, elle joue le rôle d'une fille qui se fait licencier et qui a deux jours et une nuit, donc un peu plus de 48 heures, pour convaincre ses coqs de boulot de reporter le vote qui l'a conduit à son licenciement et les convaincre d'accepter qu'elle reste au profil d'une prime qui leur est destinée. Marion Cotillard, c'est quand même une superstar et il faut quand même la rendre convaincante avec son Marcel Orange, ses grosses cernes. Et je trouve que voilà, le mérite revient au Fred Arden pour la direction de l'actrice qui est excellente, et aussi pour Marion Cotillard. Et je pense qu'elle aurait pu le mériter. Alors, je n'ai pas encore vu le film de Cronenberg, ça va arriver d'ici quelques heures. Mais,
ça n'a rien à voir. Hein.
Rien à voir, oui, dans le jeu, rien à voir, mais je pense qu'elle l'aurait mérité. Elle doit l'avoir ici, je pense, Marion Cotillard.
Alors, pour finir un petit peu sur les prix, prix d'interprétation masculine, c'est du coup Mr. Turner, le premier film finalement de la sélection.
Timothy Spall, alors que tout le monde parlait, mais vraiment tout le monde, de Steve Carell. Pour prendre l'interprétation, mais vraiment tout le monde là, c'est pas parce que je suis fan. Hein. C'est le seul acteur qu'on a applaudi quand même pendant le générique de fin à la presse, hein, le seul de toute la sélection. Hein. Et tout le monde parlait que de ça, ou à la limite peut-être le trio du film, Foxcatcher. Et au final, non, Timothy Spall, en même temps, c'est mérité. Hein, c'est quand même...
Mais c'est un rôle à Oscar, c'est un rôle à prix.
Plus le Carell que quand même Timothy Spall, quand même.
Parce que là, il joue le rôle d'un c'est un personnage de biopic,
ouais,
un personnage
couleurs.
Artistique, un artiste aux couleurs.
Qui va au bordel, plus, qui peint.
On va reparler un petit peu de ce film en quelques mots pour les auditeurs qui n'en auraient pas trop.
C'est la vie de William Turner, un peintre du 19e siècle anglais, et qui, dont on suit le parcours sur 25 ans. Et le film est très bien pensé, je trouve, au niveau du temps, au niveau des transitions temporelles. Avec, on ne voit pas les ans passer, mais on le voit sur le visage des acteurs, justement. Et peut-être que c'est par rapport à ça que Timothy Spall ressort avec le prix d'interprétation
masculine. Moi, je trouve ça un peu facile. J'ai pas vu tous les films.
Il fait beaucoup de mimiques, il fait beaucoup de grognements.
Oui, voilà.
C'est un personnage haut en couleur et peut-être que le personnage peut-être plus plu que la performance aussi. Ouais, c'est voilà, possible.
Je pense que Depardieu aurait pu l'avoir en ce cas-là, hein, son prix d'intervention masculine, s'il avait été en compétition, le film de.
Alors que Carell, lui, c'est plus un rôle à Oscar pour le coup. Il s'est maquillé, il s'est grimé, il a un faux nez très imposant, il a les cheveux blancs, il a pris du poids, il se tient d'une certaine manière assez bizarre. Tout le monde pensait que c'était Carell, hein, vraiment.
Et paradoxalement.
Alors, les autres prix, du coup, un petit peu qu'on a.
Pour faire la transition, il y a le prix de la mise en scène pour Foxcatcher, qui est un. J'adorais le film. Hein. C'est un film, voilà, sur un milliardaire schizophrène paranoïaque interprété.
C'est une histoire plus.
Un milliardaire schizophrène qui est passionné par l'Amérique, passionné par la lutte, le sport, la lutte, hein, et qui va prendre sous son aile un jeune poulain, joué par Channing Tatum, qui est en conflit avec son frère aussi, qui est un champion olympique, hein, et cet homme-là qui n'a jamais eu la reconnaissance va trouver en Steve Carell un père. Et progressivement, Carell va tomber dans une spirale de paranoïa, de folie. Et voilà, il y a des moments très drôles, très absurdes, très glauques, enfin très bizarres. Et pour le coup, le film brille vraiment par ses interprètes, que ce soit Carell, Channing Tatum ou Ruffalo, mais pas trop par sa mise en scène. Certes, il y a une atmosphère très ouatée, très très claustrophobique presque, hein, dans le grand manoir de Steve Carell. Mais ça brille surtout pour ses acteurs, quoi. Donc c'est une vraie surprise pour moi, près de la mise en scène. Non ?
Je l'ai pas vu, le film.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, voilà.
Alors, Caméra d'or ?
Oui, c'est un film. C'est Girl Party ou c'est
Party Girl
Party
Girl.
Party, je comprends toujours. Oui, c'est le film qui a fait l'ouverture Un certain regard, réalisé par trois metteurs en scène. C'est assez atypique comme chose. Hein.
Donc, j'ai les noms si tu veux, là.
Vas-y.
Marie Amakchoukli, Claire Borger et Samuel Tess.
Voilà, donc deux réalisateurs et une réalisatrice. L'un des réalisateurs est le fils de l'actrice du film qui fait le film de sa vie. Hein. C'est plus ou moins une histoire vraie, l'histoire d'une...
Angélique Lisenberger.
L'environnement, quoi. C'est-à-dire que c'est une danseuse de cabaret, oui, etc. Parce que je crois quand même que c'est pas exactement la même histoire d'abandon d'enfant et
donc
tout
l'histoire,
ça.
Donc l'histoire, on est à Forbach de nos jours, hein, donc une ville morte où... plus rien ne se passe. Et Angélique, qui est une call girl, lui, qui travaille qui a toujours travaillé dans les cabarets.
Enfin, une danseuse, quoi, voilà. Parce qu'elle est pas vraiment prostituée, oui, quoi.
Arrive à la soixantaine, elle ne sait pas si elle a envie de se poser, de se marier, ou si elle veut continuer à mener sa petite vie de fêtard, bien que voilà, l'âge la rattrape et que du coup elle profite un petit peu moins de ses atouts, contrairement aux années précédentes où elle avait beaucoup de succès. Et elle décide de lier une vraie histoire assez sérieuse avec un ancien client ou un ancien ami qui avait l'habitude de le voir, et ça va aboutir à un mariage qui va mal tourner. Et ça avait un aspect très documentaire, mais à la manière des reportages striptease, hein, qu'on avait vu. À la Dardenne même. Et moi, je trouvais que pour un film d'ouverture, Un certain regard, je trouvais que c'était quand même moyen, même si effectivement tous les acteurs sont plus ou moins non professionnels, amateurs. Il y a juste l'acteur principal qui ressemble beaucoup à Luc Besson, je trouve, hein, qui a un physique et la même gueule que Luc Besson.
Dans tout le film, il me l'a dit, Hakim.
qui est professionnel. Donc voilà. Chapeau au niveau de la direction d'acteur, parce que c'est pas facile de rendre crédible des gens non professionnels.
Non, puis il y a des vrais moments de vie, etc. Après, c'est vrai que ça reste quelque chose quand même que depuis 10 ans, on voit effectivement beaucoup à la télé, qu'on voit dans pas mal d'autres films, et il n'y a rien de très, très original, quoi.
Et le film a eu la Caméra d'Or. Qu'est-ce que la Caméra d'Or ? C'est un prix qui a été créé par Gilles Jacob, qui aujourd'hui prend sa retraite, ne sera plus le président de Cannes dorénavant, et qui récompense...
Il restera, je crois, la Caméra d'Or, je crois, la Cinéfondation.
Oui, il reste, oui, bien sûr. Mais c'est la Palme d'Or pour le meilleur premier film. Et du coup, concourt pour ce prix tous les films dans toutes les compétitions, c'est-à-dire la compétition officielle, Un certain regard, Quinzaine des réalisateurs, Semaine de la critique. Je ne veux pas croire qu'il n'y avait pas un autre meilleur film.
En tout cas, ça ne pouvait pas être Lost River, qui était quand même très mauvais.
Lost River, que je n'ai pas vu. Premier film de Ryan Gosling, qui était également
en... On va en parler un peu après, dans la troisième partie, des flops et des perdants, des réussites.
Prix du jury en compétition, le film russe.
Oui, non, le prix du scénario.
Prix du scénario, pardon.
Léviathan, ouais... une sorte de polar, enfin peut-être un peu au début,
qui raconte, ouais,
très contemplatif.
qui raconte l'histoire d'un garagiste qui lutte contre la corruption qui règne dans son petit.
On le vire finalement.
On l'exproprie.
Voilà, l'exproprie de sa maison natale, de sa maison de ses ancêtres pour construire un bâtiment. On le saura à la fin ce que c'est que ce bâtiment. Mais lui, il va se battre là-dessus et on va voir une spirale de corruption. Voilà, typique du cinéma, on va dire, en russe. Et c'est un film, oui, qui ne brille pas trop par sa mise en scène. J'étais un peu dans le même cas, par exemple, que Winter Sleep par rapport à ce film. C'est beau, c'est très bien fait, les acteurs sont vraiment géniaux. Mais voilà, ça va pas très loin, quoi. On se fait un peu chier, enfin, pour ma part. Il y a quand même des moments très, très drôles où les acteurs boivent de la vodka ou tirent à la Kalachnikov sur les têtes des présidents russes. Enfin, il y a vraiment des trucs très, très drôles. Et pourquoi pas aussi faire un parallèle avec ce film, avec la situation qui s'est passée aux Jeux Olympiques dernièrement, voilà, où beaucoup de maisons ont été expropriées au profit de multinationales, au profit de l'argent. Et c'est un film qui a pu être récompensé, comme Tombouctou d'ailleurs, pour son actualité, entre guillemets. Quoi. Mais bon.
Alors, on a oublié des prix ou pas, la quinzaine des réalisateurs. Alors, toi, c'est un film que tu n'as pas vu, mais on peut peut-être le citer quand même.
Je crois que c'est Les Combattants, si je ne m'abuse.
Qui passait en début de semaine. Que j'avais prévu de voir au départ quand j'avais construit mon planning et que je ne suis pas allé voir car j'ai un peu honte, je le dis, j'ai
privilégié à cet endroit. Le film de Céline Sciamma n'a rien gagné, lui, et Bande de filles, parce qu'il était bien présenté,
qui a fait l'ouverture,
qui était vraiment pas mal et qui a eu des très très bons retours aussi.
La presse en a parlé, dans Libération, dans Le Monde.
C'était vraiment assez intéressant, quoi.
Enfin, il y avait, du peu que j'ai vu Alléluia, le film de Fabrice Duval, qui est vraiment génial. Inspiré des tiens de la lune de miel, c'est un couple américain qui a tué apparemment une vingtaine de victimes. Donc là, il transpose ça au milieu des Ardennes, donc c'est très Groland, quoi. Il y a pas Philippe Naon,
comme dans Calvaire.
Ouais, exactement.
Qui avait lieu dans les Ardennes également.
Et c'est l'histoire, voilà, d'un homme qui séduit des femmes pour leur soutirer de l'argent. Il va séduire Lola Duenas, l'actrice de Pedro Almodovar, et elle va tomber littéralement amoureux de lui et elle va comprendre son stratagème, mais elle va décider de continuer avec lui, de séduire des femmes et de leur soutirer de l'argent. Le problème, c'est qu'elle n'accepte pas qu'il couche avec ces femmes-là, et elle décide, elle, de les trucider, toutes les femmes, les unes après les autres. Il y a des moments, mais tu dis, mais c'est à la fois génial, super glauque, super drôle en même temps. Enfin, on ne sait pas vers quoi on tend. Il y a un moment où Duenas chante une chanson d'amour un peu à la Jacques Demy, tu sais, un peu à la Catherine Deneuve, comme ça, et devant elle, il y a un corps. Elle continue à parler, elle chante, et tout d'un coup, elle sort une scie, elle commence à couper le pied de la meuf, en gros plan, en chantant sa chanson d'amour, quoi. Et tu dis, mais c'est quoi ce truc? Et ça fonctionne.
Ça rappelle la musique du Barbolivien dans Haute Tension.
Ouais, exactement, mais encore en plus gros, tu vois, encore en plus grotesque, on pourrait dire. Et ça marche vraiment très bien, il y a des mises en scène en clair-obscur qui sont vraiment géniaux. Et Laurent Lucas est excellent dans le rôle du tueur, et pareil pour Alain Denas, quoi.
Alors, quinzaine... on a fait le tour des prix un petit peu, ou il nous en manque certains?
Non, je crois qu'on a tout fait.
On a tout dit. Eh bien, écoutez, on va écouter à nouveau un morceau de musique, et on se retrouve ensuite pour parler un petit peu des flops, aussi des grandes réussites qui n'ont pas été forcément primées, des événements, de l'ambiance un peu du festival. There is one, the band playing in silence. Songs of the world gravity see the shadow. The sea whisper will win gold. Evening and lightness arrive. There we are.
drum, the band playing in silence. Songs of the world, gravity of shadow. The sea is ringing with wind ghosts. The land is around. The land is around. There we are. There we are.
Alors, dernière partie de cet entretien Confluence consacré au Festival de Cannes. On va parler un petit peu maintenant des grands oubliés, un petit peu, on va dire, du palmarès. Quel film, selon vous, aurait mérité plus, on va dire, que ce qu'il n'a eu?
J'ai envie de dire Captive de Tom Egoyan, qui s'est fait vraiment déchirer par l'ensemble de la critique. Avec Raphaël, on a assisté à la projection presse de 8h30 et à la fin du film, tout le monde huait le film.
Et on a beaucoup aimé tous les deux.
Oui, parce qu'on aime bien le genre, ce genre de film, des thrillers. Après, effectivement, c'est vrai que on a un peu l'impression d'avoir affaire à un sous-prisonneur. Ce prisonneur est passé par là, bien avant. Alors, les gens qui c'est un format un peu téléfilm. Bon, c'est vrai que la caméra n'est pas trop statique. Par exemple, on a l'impression que il y a des plans et des scènes qui sont aussi soporifiques que certains épisodes de Derrick, bon, certes, mais il y a une atmosphère glaciale qui est propre à Tom Egoyan. Il y a pas mal d'aller-retour. D'ailleurs, c'était un petit peu la marque de fabrique des films cette année. Beaucoup de films spatio-temporels, ouais, où il y avait beaucoup de flashbacks, d'aller-retour, de flash-forward. C'est un film qui est basé uniquement sur ce principe-là, qui a peut-être dû dérouter certaines personnes. Et avec Raphaël, on défend le film, on a plus ou moins aimé. Il y a un autre film, alors bon, les Frères d'Ardenne, je pense que oui, ils auraient pu avoir un prix, alors peut-être le prix de la mise en scène, hein, parce que bon, la direction d'acteur, pour moi, fait partie de la mise en scène, ils auraient pu avoir le prix, ce prix-là qu'ils n'ont encore jamais eu, ils auraient pu avoir, voilà, ça aurait pu compléter leur palmarès.
C'est un peu compliqué leur cas quand même. Mmh.
Par contre, moi, un film qui a été oublié, je trouve ça logique, hein, il y avait quand même un gros buzz là-dessus, et t'avais fait partie de ces personnes qui avaient fait un peu exploser le buzz à Maurice sans avoir vu le film, mais en ayant vu que la bande-annonce, c'est le film de Tommy Lee Jones.
Ouais, c'est vrai que ça paraissait vraiment être un bon film.
The Holmes Man. Et finalement, bon, ça raconte l'histoire du. Le sujet principal, et Tommy Lee Jones l'a dit en conférence de presse, ce qui l'intéressait au départ, c'était de parler de ces personnes, de ces femmes malades qui étaient très présentes à l'époque et montrer comment on les traitait dans l'Amérique du Far West, la conquête de l'Ouest. Et force est de constater que quand tu regardes le film, tu as l'impression que Tommy Lee Jones passe complètement à côté du sujet. C'est qu'en fait, il effleure le sujet. C'est pas ça.
C'est une relation entre un vieil homme vagabond et une jeune femme.
Une femme qui va justement va chercher ces femmes malades. Et donc, du coup, le film, c'est quoi? C'est une conquête de l'Ouest, mais à l'envers. On part de l'Ouest, on va à l'Est. Après, on retourne de l'Est à l'Ouest. Et c'est tout. Alors, formellement, c'est sublime. Il y a des beaux cadres. La mise en scène rappelle celle de Ford. On a ces plans iconiques et mythologiques de Ford. Mais c'est tout. Voilà. Et bon... voilà, on critique un peu la présence de Tom Egoyan. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'était vraiment légitime de mettre ce film-là en compétition? Bon, c'est vrai que Tommy Jones, c'est un peu plus sexy que Tom Egoyan. Mais bon, des fois, je me la pose la question. Et pour terminer, deux dernières choses. Je trouve que la Casa des réalisateurs, cette année, a su tirer profil avec une sélection, ma foi, bonne, même si je n'ai pas eu la chance de voir beaucoup de films. J'aurais donné cher pour assister à la projection de Massacre à la tronçonneuse. Bien qu'il y a deux ans, j'ai été parmi les chanceux à avoir cité à celle de « It's une fois en Amérique » avec toute la clique. Donc bon, voilà.
Oui, ça va.
Un point partout. Mais voilà, ils ont su jongler avec des films d'auteur, des films de genre, des films fantastiques, des films d'horreur, des policiers. Voilà. Coup de chapeau à la sélection Casa des réalisateurs.
Et pareil pour le film de la critique aussi, puisqu'il y avait The Tribe qui a qui a vraiment défrayé la chronique là-bas, un film quasiment muet, pornographique, etc. Et un film aussi d'horreur, It Follows, que beaucoup, beaucoup de monde a adoré sur la croisette.
Et qui a gagné la critique alors, du coup ?
Bah, c'est The Tribe. The Tribe, ouais, qui a fait énormément parler de lui. C'était le vrai scandale de Cannes cette année. Quoi.
Et pour finir, un petit mot, et après Raphaël va prolonger là-dessus. Welcome to New York, qui est le film qu'on a un peu fantasmé durant tout le festival, qu'on a eu la chance de voir, et pourtant, ce n'était pas facile, hein, car
on s'est battu
quatre projections simultanément, donc deux au Cinéma Star, une Antibes, et deux dans deux salles aménagées sur la plage. Welcome to New York, nous, film d'Abel Ferrara, sur l'affaire DSK, et film tourné en 18 jours. Avec peu de moyens, et ça se voit. Comme je l'ai dit dans ma critique et ma chronique à Cannes, on n'allait pas voir le film pour savoir ce qui s'était passé dans le Sofitel et sur l'affaire d'Esca, parce qu'on sait à peu près tout et on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé dans cette chambre-là. Ce qu'on voulait voir, c'était le gros GG devant la caméra d'Abel Ferrara, voir ses scènes d'orgie.
Après, Abel Ferrara, il prend quand même un parti. Moi, c'est vrai que c'est marrant, je regardais le film comme ça, un peu histoire de voir ce fameux opus dont tout le monde parlait.
Non seulement il tranche là, mais il tranche dans les flashbacks où il dit que quand on voit justement l'affaire Méré, les affaires à Sarcelles, etc., on voit qu'il est comme ça dès le début, que c'est pas une pulsion sur le coup. Depuis le début, il est comme ça.
Non, Abel Ferrara, il prend quand même parti et le côté de dire que Strauss-Kahn, en plus d'être un obsédé sexuel,
ne voulait pas être président aussi. Il le dit dans le film.
Entre guillemets.
Oui. Et dans le film, finalement, on a les 30 premières minutes, c'est Gérard Depardieu comme on l'a jamais vu dans des scènes de cul, mais immonde, où on le voit à poil. Il se livre corps et âme. Et Abel Ferrara le lance dans une cage au requin, dans une cage au tigre. Je repense à cette séquence où il va justement dans la prison, il est entouré de vrais criminels qui le dévisagent. Et là, on a Gégé, mais
à son
paroxysme, à son apogée, parce qu'il faut réussir quand même. Pas n'importe qui peut réussir à prendre le dessus et improviser sur le coup. Toutes les scènes, la moitié des scènes sont improvisées. Donc deux caméras, comme je l'ai dit, ça se voit très bien à l'écran, deux caméras dans deux angles différents, tournées en live. Donc pour cette séquence-là avec les criminels dans la prison, mais également les séquences de partout avec les lesbiennes, les prostituées. Puis voilà, et donc du coup, on a ce qu'on voulait voir. Gégé qui déshabille, qui fait ses scènes érotiques, voire même plus.
C'est de l'immense Depardieu.
Voilà, donc tout le monde a rigolé. Mais je suis désolé, même si Abel Ferrara, j'aime pas tous ses films, je reconnais qu'il a fait quand même mieux d'un point de vue cinématographique.
Et c'est quand même hyper chiant. Moi, je veux pas dire, les gars, moi, je me suis quand même bien emmerdé.
Tu bien fait chier, on a bien rigolé.
J'ai rigolé. Il y avait des côtés sympas, etc., machin. Mais je veux dire, il y avait quand même pour moi, c'est aussi un film vraiment digne des années 2010, etc. C'est-à-dire aussi où c'est du buzz dès le départ. On sent qu'il y a quand même l'idée, c'est ça, quoi. C'est de surfer sur un fait divers qui a été ultra consommé, ultra médiatisé et tout ça, et de faire un truc avec une caméra à l'arrache.
Mais c'est quand même DSK, et finalement, de quoi parle le film ? Il parle d'addiction, de pouvoir, de chute, de rédemption,
d'addiction. Mais l'idée était bonne, moi, je pense que c'est un film
là-dessus.
C'est
des thèmes proches à Ferrara, donc c'est tout à fait logique.
Mais de ça, de ce côté, effectivement, on va dire racoleur, même putassier, on peut le dire. Ferrara lit vraiment, je trouve, un portrait sur Depardieu. C'est pas un film sur DSK, c'est sur Depardieu.
Tu oublies DSK.
C'est un hymne à Depardieu. Ouais. Et dans le film, moi, j'ai vu les interviews dans le show film de Ferrara en venant à l'émission. C'est Brando, quoi, le mec. Quand il est seul sur les toits, c'est la meilleure scène du film où il parle de Dieu, de tout. Quand il est en peignoir, il parle de Dieu. Là, on dirait qu'il connaît le cours dans la jungle, là, Depardieu. Et Depardieu, il se livre, mais voilà, la séquence où il se met nu à Records Island pour se faire fouiller, on voit même quasiment son anus, enfin, quasiment. Aucun acteur au monde aurait osé faire ça. Ouais. Quoi. C'est un peu l'inverse de Mahmoud, quoi. Autant Mahmoud, c'était un hymne sur la beauté, on va dire, la liberté de Depardieu. Et autant là, c'est tout le côté noir de Gros Gégé, quoi. Et pour le coup, moi, je dis bravo. Et par contre, un truc qu'il faut dire aussi, c'est que...
Alors toi, t'avais une petite info.
Oui, parce que le film n'était pas en compétition. Pour moi, je trouve ça logique. Je trouve pas que c'est un film qui mériterait qu'il y ait les qualités nécessaires pour faire partie de la sélection.
On a vu Pierre à Cannes, quand même.
Mais il aurait pu effectivement passer en séance de minuit, séance spéciale. Et donc, du coup, Raphaël a eu des informations.
Alors, apparemment, donc oui, moi, j'en parlais avec Hakim, ça me paraissait quand même très bizarre que DSK ne soit pas sélectionné, peu importe la sélection. On a vu bien Pierre à Cannes, donc je me suis posé des questions. Donc, quand même, que Thierry Frémaux, en homme intelligent qu'il est, on peut lui reprocher plein de trucs, mais pas ce côté communicant, ce côté politique, on pourrait dire, d'être passé à travers cet événement. On a parlé que de ça pendant un jour, et toute la sélection cannoise est passée à l'as. Et c'est bien dommage. Et du coup, je me posais des questions, et apparemment, Thierry Frémaux a adoré le film.
Et c'est Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, qui a dit niet. C'est un film qui va sortir directement sur Internet, donc ce n'est pas du cinéma, ça n'a rien à voir avec la sélection cannoise, et donc par conséquent, il n'a rien à faire là. Et on voit très bien, du coup, que Thierry Frémaux, voilà, ne pouvait pas se séparer d'un film comme ça, et que Gilles Jacob est un peu, avec tout le respect que je lui dois, un petit peu dépassé par les événements. Il est à côté de la plaque, il ne comprend plus, je crois, les tenants et les aboutissants médiatiques aujourd'hui du 7e art. Et à l'époque aussi, il avait fait le coup pour Carlos, hein, la série de Assayas. Frémaux voulait le mettre directement en compétition, et c'est bien normal quand c'était un super, super document sur le terroriste. Hein. Et pourtant, Gilles Jacob a dit non, niet, et du coup, ils ont trouvé un terrain d'entente sur hors compétition pour Carlos.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres films, toi, un petit peu, que tu as vu et dont tu as regretté la non-présence au palmarès ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui auraient mérité mieux, on va dire ?
Ben, je suis assez d'accord avec Hakim sur Captive. Il a très bien exprimé mon point de vue là-dessus. J'ai beaucoup aimé Sils Maria, le dernier film sélectionné en compétition, le film d'Assayas, j'en ai évoqué un petit peu tout à l'heure, qui est un film très fin, je trouve, assez juste sur la création, sur c'est quoi être actrice aujourd'hui, la représentation de l'image aussi de l'actrice. Enfin, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais en général, voilà, je n'ai pas eu quand même de grosses baffes cette année.
Mais les Loach, les Azanavicius, tout ça.
Azanavicius, immense déception. Ouais. Je suis un fan ultime d'Azanavicius, j'ai vu toutes ses œuvres depuis le début et force est de constater que là, il se force, il fait un film qui est assez boursouflé, qui est très long, 2h30, un mélodrame. Il va vraiment avec ses gros sabots dans les côtés larmoyants. Et les acteurs sont quand même pas bons aussi. Bérénice Bejo, qui est quand même super bien l'an passé dans Le Faraday, était extraordinaire. Dans The Artist, elle était géniale. Et force est de constater que là, elle en fait un peu des caisses, quoi. Et c'est bien dommage. Il n'y a pas grand-chose qui surnage là-dedans, à part peut-être ce qui faisait la force de Zanavicius avant, hein, c'est-à-dire les clins d'œil cinéphiles qu'on retrouve par-ci par-là. Alors on pense évidemment au film de Zinman dont il est tiré, hein, c'est un remake. Hein. On pense évidemment à Allemagne année zéro de Rossellini. Hein. On pense à Full Metal Jacket pour le parcours des gamins, des soldats entraînés. Et il y a même des clins d'œil un peu à la Tarantino où le gosse non, met une musique dans une chaîne IFI. Et la musique, c'est Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Donc tout ça, ça plaît un petit peu. On retrouve le Zanavicius qu'on aime, mais ça ne fait pas grand-chose au final sur un film qui dure quand même 2h30 et qui relate 4 destins croisés. Quoi. Je pense qu'il va couper le film. Je pense vraiment qu'il va le couper avant la sortie. Il sort le 24 novembre, je crois, le 26 novembre en France. Il a quand même bien mérite à couper le film d'une demi-heure facile.
Et Ken Loach, alors ?
Ken Loach fait du Ken Loach, j'ai envie de dire. Voilà,
classique, quoi.
Voilà, c'est bien fait, mais...
Sans plus.
Le début commence comme un Woody Allen. On se dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, là, Ken Loach ? On voit New York, on voit une musique de jazz. On se dit, mais on s'est planté de film ou quoi, là ? Et en fait, non, on suit le parcours d'un syndicaliste voilà, qui a été exilé aux États-Unis, qui rentre au pays en Irlande et qui va réouvrir un local pour la jeunesse irlandaise qui s'embête un petit peu. Et il va très vite être confronté au conservatisme de l'époque qui est représenté en fait, dans le film par un prêtre. Et on va voir la guerre entre les deux. Donc c'est très bien interprété, c'est très bien joué. Les décors sont magnifiques, les cadres sont sublimes. Mais voilà, par rapport à d'autres films, bah malheureusement, Ken Loach passe un peu inaperçu. Et c'est dommage qu'il y a du talent, mais il fait un peu toujours la même chose et du coup, il passe un peu à l'as, quoi.
Alors, un clin d'œil, un truc que tu voudrais ajouter, peut-être Wim Wenders en
parlait. Ah oui, Wim Wenders, oui. Wim Wenders qui a reçu un prix spécial. Un certain regard, et c'est le film qui m'a scotché. Là, pour le coup, c'est la vraie claque du festival, c'était ça. Je ne savais pas du tout de quoi parlait le film de Wenders. C'est un documentaire, donc il a fait plusieurs documentaires, on se rappelle. Il a fait Pina, sur Pina Bausch, il avait fait Buena Vista Social Club, quand même, donc des grands documentaires sur la création. Il a fait
un très beau documentaire sur le blues aussi.
Ouais, voilà. Donc la musique, la danse, et là, il fait la photographie. Il va en fait faire un documentaire sur Sebastião Salgado, hein, immense photographe. Et le film va suivre comme ça tous ses travaux, de chapitre en chapitre. Donc on voit les grands travaux, donc Genesis, Workhorse,
Exodus. Alors il faut savoir quand même pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Salgado, que c'est un photographe réputé aussi très, très politisé, très humaniste, qui parle un petit peu des laissés pour compte dans le monde entier, des luttes, etc. Enfin c'est ce type de photographe, un petit peu on dirait un Cartier-Bresson des temps modernes, quoi.
Et le film est composé essentiellement de photos en fait de Salgado. On voit tous ses travaux et on voit Salgado qui intervient parfois. Tout le film est en noir et blanc. Il intervient parfois pour chroniquer, on pourrait dire, pour parler des photos présentes, hein, à l'image. Et c'est un film qu'il faut voir, je pense, vraiment. On voit des images, j'ai jamais vu des images comme ça, des images atroces, par exemple du Rwanda, des génocides, on voit des cadavres C'est atroce, là. Y a pas d'autre terme, c'est atroce. La famine au Sahel, etc. On voit un homme qui est vraiment plongé au cœur des ténèbres, quoi, photographe. D'autant plus qu'il a eu des problèmes familiaux, on l'explique dans le film, il a un enfant trisomique, etc. C'est un homme qui va perdre la foi, en fait, avec tout ça, avec toutes ces images, et qui va la retrouver, finalement, en retournant au pays, qui va retourner au Brésil, dans sa plantation familiale, et qui va replanter, comme ça, 2 millions d'arbres, et il va faire un nouveau travail, et c'est celui dans lequel il est actuellement, hein, qui s'appelle Genesis, où il va montrer tout l'inverse cette fois-ci, la beauté du monde, les plus beaux paysages à travers la planète et les animaux. Et là, pour le coup, on retrouve un optimisme, une beauté du monde, alors qu'avant, on avait l'atrocité de l'être humain, quoi. Et c'est un film qui est vraiment nécessaire. Je ne sais pas comment il va sortir en salle, mais il faut vraiment, vraiment le voir. C'est vraiment un film qui est nécessaire, qui est magnifique et qui provoque des vraies sensations, des vraies émotions. Et pour moi, c'est ça l'art en général, c'est provoquer quelque chose. Et pour le coup, Wenders et le fils du photographe, hein, Giuliano Salgado, qui a co-réalisé le film avec Wenders, se sont fait acclamer pendant une dizaine de minutes, non-stop. C'était vraiment extrêmement émouvant. C'était, voilà, pour moi, c'était la vraie baffe de ce festival, un vrai, vrai grand film. Et je vais me plonger, je pense, très, très vite dans l'œuvre de Wim Wenders. Je connais très peu ses films. Et pour le coup, c'était une véritable baffe, alors que je ne connaissais strictement rien du sujet.
Ok, bah écoute, je te propose qu'on se quitte là-dessus, du coup. Et puis, on va écouter dans un dernier bonus Confluence Cinéma Cannes, un petit peu le best-of, on va dire, des interviews qu'on a pu réaliser, des conférences de presse et des rencontres qu'on a pu faire. Et puis, bon, on se retrouve, comme chaque mercredi, la semaine prochaine pour parler de cinéma et d'actualité. À très bientôt.
Au revoir.